Donc, on y va. Je vais vous parler de Michael Praetorius, qui est donc un compositeur de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, allemand. Peut-être certains d'entre vous connaissent, peut-être certains d'entre vous connaissent certaines pièces de lui, mais ont peut-être une idée un peu vague de qui est le personnage. Donc, j'ai nommé ma conférence L'aube de la musique baroque luthérienne, ce qui a peut-être ce qui sonne peut-être comme un titre un petit peu générique, mais en fait, c'est vraiment ce que je voulais dire par là. Je voulais vraiment dire, avec cette conférence, que Michael Praetorius est à mi-chemin entre l'esthétique de la Renaissance et l'esthétique de la période baroque, et aussi que Praetorius est un compositeur fondamentalement luthérien. Et comme vous le verrez au cours de ma présentation, ce sont deux choses qui ne vont pas forcément de soi à cette époque. Je suppose qu'une bonne partie des gens ici ne sont pas forcément musiciens, donc je pense que ça peut être utile que je fasse une petite explication au niveau du contexte de l'environnement artistique, de l'environnement musical dans lequel Praetorius travaille. Et cet environnement musical, c'est... Je vais redire mon truc. Voilà. Cet environnement musical, c'est la période charnière entre la Renaissance et la période baroque, au tournant des XVIe et XVIIe siècles, qui est illustré par la querelle entre la prima pratica et la seconda pratica. C'est-à-dire qu'on n'a pas un changement de style qui a été inventé par des musicologues au XIXe ou au XXe siècle, comme c'est le cas de beaucoup de périodes historiques dans la musique. Ici, on a vraiment eu un schisme, une scission qui a été parfaitement consciente et qui est apparue en Italie. Ce qui a provoqué, au courant du XVIIe siècle et pendant toute la période baroque, une mode de la musique italienne qui s'est diffusée dans toute l'Europe. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que cette prima pratica et ce que c'est que cette seconda pratica et comment elles se sont opposées. Donc la prima pratica, comme son nom l'indique, c'est ce qu'il y avait avant, c'est les conservateurs. C'est une pratique qui a été défendue par un compositeur théoricien qui s'appelle Giovanni Artusi, parce que on a le témoignage de cette querelle par les lettres qu'il a eues avec le célèbre compositeur Claudio Monteverdi, qui était évidemment défendeur de la seconda pratica. Donc Giovanni Artusi était un compositeur sans surprise très conservateur et qui défendait la musique telle qu'on la faisait à cette époque-là selon ce qu'on appelle le contrepoint. Le contrepoint était la technique qui était utilisée pour faire la musique polyphonique, c'est-à-dire la musique à plusieurs voix, et on la faisait non pas en pensant en accord, mais en pensant en superposition de lignes mélodiques. C'est une conception qui est en quelque sorte horizontale. On ne pense pas à la musique comme ça, on pense à plusieurs mélodies qui vont se superposer l'une sur l'autre. Les règles du contrepoint à cette époque-là sont plutôt claires et assez strictes. Et elle conditionne toute l'expression musicale, tous les outils expressifs qui vont servir à exprimer toutes les émotions, toutes les ambiances, toutes les atmosphères de la musique, sont faites au moyen de ces règles de contrepoint, c'est-à-dire de ces règles de comment différentes lignes mélodiques vont interagir entre elles. Évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement lié à la musique vocale, la musique étant de toute façon, le premier instrument, oh, pardon, excusez-moi. Le premier instrument étant de toute façon la voix, les instruments, l'usage des instruments reste globalement lié reste globalement lié à la musique vocale, c'est-à-dire que les instruments vont soit accompagner les chanteurs, ou alors, s'ils jouent tout seuls, ils vont jouer des pièces de musique vocale. Par exemple, une pièce à quatre voix va être jouée avec un luth ou avec un orgue. Donc au tournant du XVIIe siècle, on voit apparaître la seconda pratica. Celle-ci est défendue par Giovanni Astuzzi, par Claudio Monteverdi, pardon. J'ai un petit problème technique avec le zoom là, donc j'essaie de corriger des trucs en même temps. Maintenant, c'est bon. Donc cette seconda pratica est principalement axée sur le fait de l'affranchissement aux règles strictes du contrepoint. Monteverdi considérait que le contrepoint traditionnel et conservateur n'était pas suffisant pour exprimer toutes les émotions de la musique, et qu'on pouvait exprimer encore plus d'émotions en faisant exprès de contredire les règles. Il s'oppose à Arsuji là-dedans, il s'envoie des lettres plutôt salées en termes de discours, et évidemment, la Seconda Pratica va gagner, et avec elle, le développement de nouvelles formes. La technique de la basse continue, par exemple, qui vient de ce dont je viens de vous parler, quand un luth ou un orgue jouait une pièce de musique, à la fin, on finissait par réduire la pièce à ce qui allait devenir plus tard des accords. Donc on se retrouvait avec une partie instrumentale qui était cohérente et dans laquelle on ne pouvait plus distinguer les voix. C'est le début de l'harmonie, de la conception verticale, plus proche de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et cette technique de la basse continue et cette libération des règles du contrepoint va donner naissance à de nouvelles formes, en particulier à la forme de l'opéra, qui est un petit peu le genre baroque en fait. La musique baroque naît avec la naissance de l'opéra, par exemple la création de l'Orfeo de Monteverdi en 1616. Au niveau instrumental, les instruments prennent progressivement leur indépendance, progressivement parce que c'est pas encore tout à fait indépendant, mais on commence à avoir des formes comme la sonate, par exemple, qui sont des pièces de musique instrumentale qui sont composées sans lien avec la vocalité. Ce ne sont pas des adaptations de pièces de musique vocale, ce ne sont pas des accompagnements de voix. Cependant, il faut faire attention à ne pas voir ces événements avec une lecture trop moderne. Selon nos critères actuels, la différence n'est pas si grande. C'est-à-dire que tout au long du XVIIe siècle, on compose encore la musique selon les règles du contrepoint assez strictes. La musique baroque reste relativement codifiée et la musique de la Renaissance est aussi un style de musique qui est déjà très complexe au niveau expressif. Je dis ça parce que quelquefois, dans les questions d'histoire de la musique, on a un peu la vision caricaturale de la Renaissance comme comme une période très froide et très austère, et la musique baroque comme une libération totale de toutes les règles et quelque chose de totalement libre, alors qu'en fait, on reste dans des choses qui sont encore très très codifiées. Donc la problématique que la querelle entre la prima pratica et la seconda pratica pose sur notre sujet, donc praetorius, c'est l'utilisation de procédés de composition issus de compositeurs italiens et donc théoriquement contre-réformés dans un contexte luthérien qui plus est en pleine guerre de 30 ans. On est vraiment au cœur du conflit entre les catholiques et les protestants. Et comment est-ce que c'était possible que des compositeurs allemands qui vivaient dans un environnement très luthérien composent de la musique en voulant que ça sonne comme la musique de la contre-réforme? On observe effectivement dans la liturgie luthérienne, en particulier en Allemagne, des formes qui sont directement empruntées à la musique italienne. Le madrigal, par exemple, qui est une pièce polyphonique profane, généralement parlant de sujets très très expressifs, d'amour, de choses comme ça. Donc c'est évidemment un prétexte à déployer tout un arsenal d'outils expressifs. Et ces outils expressifs pouvaient être utilisés exactement de la même manière dans la musique sacrée. On a un exemple d'un madrigal de Monteverdi, par exemple, qui est un texte très érotique et qui a été transformé en louange à la Vierge. Donc les mêmes outils rhétoriques étaient utilisés pour deux buts a priori complètement différents. La forme de l'opéra va se transformer en oratorio, c'est-à-dire un opéra sans mise en scène avec un sujet sacré. Et une des formes les plus importantes à cette époque-là, c'est la forme de la polychoralité vénitienne. Donc, à l'église San Marco de Venise, il y a deux tribunes, non pas une, mais deux. Et donc, les compositeurs au XVIe siècle ont eu l'idée de mettre un ensemble musical sur chaque tribune et de faire des pièces qui donc se jouaient à plusieurs ensembles musicaux qui interagissaient ensemble. Donc ça faisait des effets, on avait la musique qui venait des fois de devant, des fois de derrière, des fois de droite, des fois de gauche, des fois de partout en même temps. Ça permettait de faire des choses très spectaculaires. C'est quelque chose qui s'est donc développé à Venise, notamment avec un compositeur qui s'appelle Giovanni Gabrieli à la fin du XVIe siècle. Et c'est un style qui aura énormément de popularité en Allemagne. Beaucoup de compositeurs allemands vont aller à Venise étudier la musique avec Gabrieli. Alors, comment est-ce que c'est possible que des compositeurs luthériens puissent, en toute liberté et en toute bonne conscience, utiliser des procédés a priori contre-réformés? Il y a deux choses à considérer ici. Le premier, c'est la fonction du compositeur. Aujourd'hui, quand on parle de musique luthérienne et de musique baroque, on pense souvent à Bach, qui était un compositeur très pieux. Mais sans aller dire que c'était une exception, ce n'était pas automatique. Un compositeur qui composait de la musique luthérienne était simplement en poste dans un endroit où, politiquement, on était dans une zone luthérienne. Par exemple, Froberger, qui était un compositeur allemand qui venait d'un endroit luthérien, n'a pas hésité une seule seconde à se convertir au catholicisme pour aller étudier la musique à Rome. Parce que pour aller étudier à Rome, on était obligé d'être catholique. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point est très important pour la compréhension de tout le développement artistique à cette époque-là, et c'est la différence entre les sphères artistiques et religieuses et politiques qui étaient relativement confondues à cette époque-là. C'est-à-dire que ce qui nous apparaît, nous, comme quelque chose de problématique, ne l'était absolument pas à cette époque-là. On pouvait parfaitement adorer l'art italien tout en étant en guerre contre la politique ou la religion italienne qui allait souvent exprimer la même chose. Donc c'est des choses qu'il faut bien comprendre pour comprendre la musique de Praetorius qui est particulièrement influencée par l'Italie pour un compositeur qui est par contre particulièrement luthérien, ou particulièrement anti-catholique entre guillemets. Donc je vais vous parler un petit peu aussi pour le contexte des grands compositeurs de musique luthérienne avant Praetorius et pendant Praetorius. Donc, ce que j'appellerais les pères fondateurs, évidemment, Luther était compositeur. Il a composé les premiers chorales à partir de mélodies populaires, d'adaptations de chants grégoriens, etc., etc. Johann Walther, qui était son collaborateur, est un des premiers à avoir proposé des versions polyphoniques de ses chorales, qui sont assez proches de ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises luthériennes, c'est-à-dire des harmonisations très très simples, qui font qu'elles sont faciles à chanter et que le texte est très très facile à percevoir, et la mélodie aussi. Donc la musique luthérienne s'est développée au XVIe siècle. C'est un sujet très intéressant, mais ce sera peut-être pour une autre conférence. Donc on va directement sauter à la fin du siècle avec trois contemporains de Praetorius que j'ai décidé de vous présenter très brièvement. Hans Leo Hassler. J'en parle parce que son style est très très proche de la musique polychorale vénitienne. C'est vraiment, on peut considérer un petit peu comme le Gabrieli allemand. L'intégralité de ses pièces est composée selon ce style, à l'exception du texte qui est en allemand. C'est même presque impossible de différencier les deux compositeurs. C'est vraiment très très proche. Johann Hermann Schein, lui, a un style plus proche du madrigal italien, c'est-à-dire que c'est des pièces qui sont pour des effectifs plus réduits, et avec beaucoup beaucoup de choses très très expressives dedans. Et enfin, peut-être le compositeur luthérien le plus important du XVIIe siècle, Heinrich Schütz. Il est considéré comme le premier compositeur baroque luthérien à proprement parler, parce qu'il a utilisé, c'est un des premiers qui a utilisé des procédés de composition de l'opéra, en particulier les récitatifs, donc des pièces avec un chanteur. Qui ne sont pas vraiment des mélodies, mais qui sont plutôt qui sont plutôt, donc, comme leur nom l'indique, des récitations, des choses qui sont vraiment dévolues au texte. Chez Schütz, il n'y a pas de pièces avec des mises en scène, mais il y a beaucoup d'oratorios, on va dire de proto-oratorios, des pièces très très narratives, qui sont des choses qu'on ne retrouve quasiment chez aucun compositeur allemand à cette époque-là. Schütz est vraiment un des premiers à avoir expérimenté avec ça. Donc maintenant, on va passer à Praetorius lui-même. Donc Praetorius est né en 1570 ou 71, on ne sait pas trop, à Kreuzburg. Et c'est très important, je vous ai dit que les compositeurs n'étaient pas forcément très impliqués personnellement dans la dévotion. Dans le cas de Praetorius, il vient d'une famille luthérienne, son père était pasteur. Donc là, un petit peu comme dans le cas de Bach, on a un compositeur qui, au contraire, est très croyant, très dévot et très cultivé dans la question religieuse. Il a plusieurs emplois dans sa jeunesse et son principal emploi à partir de 1604 est son poste d'organiste et maître de chapelle à la Marienkirche de Wolfenbüttel. Mais on a des traces de lui dans toute l'Allemagne. Il n'est jamais allé en Italie, ce qui est assez rare pour un compositeur allemand. Par contre, il a voyagé dans toute l'Allemagne et il a travaillé dans toute l'Allemagne, notamment avec Schütz à Dresde. Donc c'est un compositeur qui a eu une influence au XVIIe siècle dans un petit peu tous les coins d'Allemagne, du nord au sud. C'est un homme extrêmement érudit et cultivé, que ce soit dans des questions scientifiques, théologiques ou musicales. En tant que compositeur et en tant que théoricien, il est très prolifique et très très polyvalent. C'est vraiment quelqu'un avec un esprit d'encyclopédiste, comme on le faisait à cette époque-là, c'est-à-dire quelqu'un qui avait une espèce de boulimie du savoir, qui devait savoir un petit peu tout sur tout et écrire des livres interminables. Il parlait, il donnait son avis sur toutes les choses qui se passaient autour de lui. Comme tous ses contemporains, il est bien entendu très épris de musique italienne, des choses que la Seconda Pratica de Monteverdi a amenées, mais il reste un compositeur relativement conservateur, comme je vous l'expliquerai plus tard quand j'expliquerai un peu comment il compose la musique. On reste dans les choses qui sont finalement très proches de la prima pratica, c'est-à-dire d'un contrepoint très strict, qui sort très très rarement des règles. Une anecdote intéressante, il meurt en 1621, selon la légende, le jour de ses 50 ans. On n'a aucun moyen de le prouver, comme c'est un personnage qui était célèbre et qui est un petit peu mythique, c'est très possible que cette légende ait été inventée. Mais l'anecdote est amusante, donc je voulais vous la faire partager. Son œuvre est très très vaste. Il y a d'abord une œuvre théorique, Syntagma Musicum, en trois volumes, qui traite de un petit peu toutes les questions liées à la musique. La seule œuvre profane qui nous soit parvenue est une œuvre instrumentale, Terpsichore Musarum, plus de 300 pièces de danse française, publiée en 1612. Et l'essentiel de son œuvre, c'est son œuvre sacrée a cappella. Il y a plusieurs collections qui sont organisées par type de pièces. Donc, il y a des harmonisations de chorale à quatre voix, dont certaines qu'on retrouve encore dans la liturgie aujourd'hui. Des messes en latin, des messes en allemand, des motets en latin, des motets en allemand, des hymnes, etc. Ça représente à peu près 1500 pièces. Là-dessus, on a 1200 pièces qui appartiennent à 9 volumes de Musae Sionier, dont sont extraits des pièces très connues comme par exemple Es ist ein Rosensprungen, que tous les luthériens ici connaissent, sous le nom en français moderne d'un arbre séculaire qui a été chanté dans toutes les églises luthériennes. C'est de Praetorius et ça fait partie des pièces, donc des harmonisations de chorale, des pièces les plus simples qu'il ait composées. À la fin de sa vie, il publie trois volumes qu'il nomme Polymnia. Donc il y a un Polymnia exercicatrix dont le but c'est des petites pièces avec un effectif assez réduit dont le but est de pratiquer les ornements improvisés, encore une chose dont je vous parlerai après. Polymnia puericinium qui s'adresse aux voix d'enfants, c'est-à-dire aux enfants de chœur. Et le recueil que je vais analyser par la suite, Polymnia caduceatrix et panegyria, qui a 40 grandes œuvres qui sont monumentales, absolument monumentales, mais aussi très variées au niveau des effectifs, de la taille des pièces, etc., etc. À la fin du Syntagma Musicum, donc de l'ouvrage théorique, on a le catalogue des œuvres à paraître. La majorité n'ont malheureusement jamais paru, parce que Praetorius est mort un petit peu prématurément. Mais on savait tout ce qu'il avait l'intention de publier, et en bon encyclopédiste, il avait l'intention d'écrire de la musique dans tous les styles de musique qui existaient à cette époque, c'est-à-dire tous les genres et tous les pays. La musique italienne, la musique française, anglaise, allemande, sacrée, profane, vocale, instrumentale, de la danse, des sonates, etc., etc. Il ne nous reste, par exemple, musique instrumentale, il ne nous reste que Terpsichore et Musarum, mais on devrait avoir tous les autres types de pièces. Donc je vais vous parler brièvement de Syntagma Musicum. Donc c'est une encyclopédie très très vaste et qui tend à l'exhaustivité, qui traite de tous les aspects de la musique. Le volume 1 de Musica Sacra et Ecclesiastica est une dissertation sur la place de la musique dans la liturgie. Le volume 2, qui est probablement le plus connu, De Organographia, est un traité d'organologie avec de nombreuses planches d'illustration, qui ont été faites par Praetorius lui-même et qui ont eu un succès incroyable. Elles ont été recopiées plusieurs fois, notamment dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Toutes les planches sur les instruments sont les planches de Praetorius qui ont 150 ans de moins, quoi. Ils ont simplement recopié les mêmes choses. Le volume 3, qui est le plus précieux pour les musiciens, dit Termini Musici, est un mode d'emploi de la musique. On y parle de toutes les choses ayant attrait à l'interprétation et également à la lecture. Donc il y a des choses sur la notation, sur les proportions rythmiques, sur comment mettre des instruments sur une pièce vocale, comment improviser des ornements, comment composer de la musique, etc., etc. Praetorius se base essentiellement sur des théoriciens italiens qu'il traduit et qu'il commente. Donc, par exemple, il va, si un théoricien italien parle de quelque chose qui se passe chez lui, Praetorius va dire: ah, mais nous, en Allemagne, ça se passe d'une manière un petit peu différente parce que les instruments ne sont pas accordés tout à fait pareil. Il y a des choses très, très intéressantes sur justement les différences et les points communs entre globalement l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. Je vais vous parler un petit peu du premier volume de Musica Sacra. C'est un volume, contrairement aux autres, qui n'a pas d'édition moderne, parce que, en fait, personne n'a envie de le lire. Moi, je vous en parle parce que c'est vraiment dans le sujet de cette conférence, mais c'est un ouvrage qui est rédigé en latin, qui est clairement destiné aux ecclésiastiques plutôt qu'aux musiciens, et c'est très difficile à lire. C'est plusieurs centaines de pages, le contenu est extrêmement fourni, extrêmement dense. Praetorius fait l'étalage de sa bibliothèque, il y a des références bibliographiques partout, énormément de digressions, il ouvre des parenthèses, il fait des apartés qu'il oublie de fermer, etc., etc. Et l'essentiel de l'ouvrage est une étude très détaillée, on va presque dire à un niveau pathologique, des différentes occurrences de la musique et plus précisément des instruments dans la Bible. Il parle évidemment beaucoup du roi David, mais de plein plein d'autres sujets dans lesquels il y a un instrument ou dans lesquels il semble qu'il y a un instrument. Il croise ces informations avec des auteurs grecs antiques, par exemple Pythagore, et certains de ses contemporains, donc des théoriciens de la musique du XVIe siècle, qui allaient parler de différents sujets. Et le but de ce texte, de plusieurs centaines de pages, est finalement pas tellement informatif, mais c'est plutôt une espèce de plaidoyer en faveur de l'utilisation de la musique dans la liturgie et en particulier de l'utilisation des instruments. Le dernier chapitre est consacré à l'orgue, parce que Praetorius était évidemment organiste. On comprend aisément la volonté de Praetorius de faire ça à une époque à laquelle l'utilisation de la musique dans la liturgie est remise en question. D'une part par le calvinisme, qui va demander des formes, qui, disons, dans ses meilleurs jours, va demander des formes de musique très épurées, et dans les pires, va demander à simplement supprimer la musique de l'Église, en particulier en demandant à détruire les orgues, ce à quoi Praetorius évidemment s'opposait. Également par une partie du catholicisme. Lors du Concile de Trente, certains évêques ont tenté de faire passer des lois qui auraient régulé l'usage de la musique dans les églises en la limitant aux grégoriens uniquement. Donc autant du point de vue du catholicisme que du point de vue du protestantisme, on a une tendance à mettre la musique en danger et donc Praetorius va utiliser son ouvrage théorique pour défendre l'utilisation de la musique en disant que c'est déjà dans la Bible, donc ce n'est pas un blasphème d'utiliser la musique pendant la célébration religieuse. Nous venons donc au cœur de cette petite conférence, une petite analyse du Polymnia caduceatrix et panegyria. Comme j'ai beaucoup parlé, je vais vous laisser quelques instants avec le frontispice d'une des parties et la page de garde d'une autre partie que vous voyez un petit peu. Donc vous voyez là sur l'image, on a beaucoup d'instruments qui sont représentés. Évidemment, c'est un petit peu exagéré et très mystique, mais vous voyez un peu l'impression qu'il voulait donner avec cette collection. Et vous voyez ici un petit peu à quoi ressemble une édition à cette époque-là. Et comme vous m'avez entendu beaucoup parler, je vais vous jouer une petite pièce. Je vais vous lire un petit extrait d'une pièce de musique extraite du Polymnia. Donc là, ça veut dire que Gabriel, il faut que tu me mettes en muet. Donc, c'est une collection qui a été publiée en 1619 et qui regroupe 40 pièces monumentales, mais d'effectifs variés. C'est indiqué sur le frontispice de 2 à 21 voix. Alors, vous vous demandez certainement comment une pièce peut être monumentale si elle a uniquement 2 voix. Nous y reviendrons. Le contenu est de la musique est bien évidemment uniquement sacrée et uniquement en allemand de tous les types qui peuvent exister à cette époque-là, c'est-à-dire des motets latins traduits en allemand, des messes latines traduites en allemand, et des pièces composées sur des chorales qui sont plus ou moins des motets ou peut-être les versions les plus anciennes de ce qu'on va appeler des cantates après, c'est-à-dire ce qu'on va trouver chez Bach, qui va composer des cantates basées uniquement sur une mélodie de chorale. La majorité des pièces est composée sur le modèle polychoral vénitien, dont je vous ai déjà parlé. Il y a aussi des pièces en effectif plus réduit. En fait, c'est un petit peu une espèce d'échantillon de tous les types de pièces de musique sacrée qu'il a collectées dans ses autres collections, mais avec quand même une préférence pour le modèle polychoral, étant donné qu'on est quand même dans des pièces de très gros effectifs en règle générale. Il organise ces pièces selon différents chœurs. Alors quand on parle de chœur à cette époque-là, ça ne veut pas forcément dire quelque chose qu'on chante. Un chœur, ça désigne simplement un ensemble, soit de chanteurs, soit d'instrumentistes, soit d'un mélange des deux. Donc il y a des chœurs vocaux solistes, des chœurs vocaux tutti, c'est-à-dire d'ensemble, et des groupes instrumentaux de différents types. Il y a des violons, des viols de gamme, des trombones, des trompettes, des clavecins, des orgues, des luths, à peu près tous les instruments qui pouvaient exister à cette époque-là sont mis à profit dans cette collection. Pour vous montrer un petit peu, vous avez entendu là une pièce qui avait l'air déjà assez large, mais pour vous montrer un petit peu la démesure que cette collection peut avoir, je vais vous jouer la célèbre cantate de Noël, In Dulce Jubilo, qui est la seule pièce de la collection qui comprend des parties de trompettes écrites. Première partie de cette pièce, vous entendez que ça déménage quand même pas mal. Et bien évidemment, on reconnaît tout de suite la mélodie du choral In Dulce Jubilo, qui est quelque chose, un procédé d'écriture sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard. Donc, on va voir en quoi le Polymnia est, en tout cas pour moi, une œuvre fondamentalement luthérienne. Alors, qu'est-ce qui en fait une œuvre luthérienne? Pour moi, il y a à la fois des questions plutôt spirituelles et des questions aussi plutôt pratiques. La première chose qu'on remarque, c'est que c'est une collection qui a une dimension pédagogique. Et en fait, ce qui se passe dans les trois polymnias, en particulier dans celui-là, c'est qu'on a une sorte de mise en pratique des procédés d'interprétation qui sont décrits dans Syntagma Musicum. Praetorius parle de comment on peut doubler certaines voix par certains instruments, comment on peut rajouter des ornements improvisés sur certaines autres voix, comment est-ce qu'on peut rajouter des intermèdes instrumentaux entre les différentes parties. Et en fait, si on prend Syntagma Musicum et qu'on prend une pièce, par exemple, de Musæus Ionii, c'est-à-dire qui est sur le papier écrit uniquement pour des voix, qu'on y applique les conseils qu'on lit dans Syntagma Musicum, on se retrouve finalement avec une pièce qui est très proche de ce qu'on a écrit sur le papier dans le polyhymnia. Et l'inverse marche aussi. Par exemple, il y a une grande cantate de Noël sur Puer Natus Est, qui est à, je ne sais plus combien, 16 ou 17 voix, quelque chose comme ça, avec, comme ce que vous avez entendu là, des changements de dynamique entre les différents ensembles. Et dans Mouzes et Sionier, on trouve une version de la même pièce, mais réduite à 3 voix. Sinon, c'est exactement la même pièce. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la manière avec laquelle Praetorius écrit ses pièces de manière modulaire, ce que j'appellerais modulaire. C'est-à-dire que on peut enlever des ensembles entiers, c'est-à-dire qu'une pièce qui est écrite à 4 chœurs peut être jouée uniquement à 3, 2 ou 1 chœur, et même à l'intérieur d'un chœur, on peut enlever certaines voix. Pour vous faire comprendre le pourquoi et le comment de ça, je vais vous faire très rapidement une petite explication de comment on composait la musique à cette époque-là. Donc, dans la partie sur la prima pratica, je vous ai expliqué comment on composait la musique selon le contrepoint, c'est-à-dire des lignes mélodiques qui se superposent. Et la manière la plus basique de faire du contrepoint, c'est de prendre une mélodie de base qu'on va appeler ténor, qui dans la musique sacrée à l'origine est toujours une mélodie issue du chant grégorien, et on va composer une deuxième partie dessus qu'on va appeler superius ou cantus, selon des règles bien établies, très claires et absolument sans ambiguïté. Et ensuite, au XIVe siècle, XIVe, XVe siècle, on s'ennuyait un peu avec ça, donc on a commencé à rajouter des voix. Des voix qu'on va appeler contre-ténors. On les compose contre le ténor. On va en composer qui sont plus graves, qui sont plus aigus, qui sont au milieu, etc., etc. On va se retrouver avec des pièces avec 3, 4, 5, 6, 7 ou plus de voix. Mais ces parties intermédiaires sont toujours facultatives. C'est-à-dire qu'on peut toujours les enlever et garder la pièce dans une forme essentielle qui est la voix de base et la voix qui est composée dessus pour en faire une pièce polyphonique. L'usage a évolué et au cours du XVIe siècle, on a déjà des pièces avec un fonctionnement plus compliqué dans lesquelles on ne peut plus réduire. C'est-à-dire qu'une pièce écrite à 4 voix, doit être chantée à 4 voix. On ne peut pas s'amuser à enlever des voix, sinon on se retrouve avec une pièce qui tient pas debout. Mais Praetorius, lui, est conservateur dans la mesure où il compose toujours selon cette logique dans laquelle on peut enlever des voix. Donc les 2 pièces que je vous ai fait écouter, qui étaient très massives et très monumentales, dans les 2 cas, on pouvait enlever plein de voix et se retrouver juste avec 2 chanteurs, et ce serait théoriquement la même pièce. Mais ça change la couleur de la pièce, mais les paroles sont toujours là, la structure de la pièce est toujours là. Là, on entre un peu dans le domaine de l'interprétation, mais pour moi, c'est quelque chose qui fait complètement écho à la pensée luthérienne, dans la mesure où les gens qui écoutent ces conférences, qui sont luthériens, je sais qu'il y en a, vous savez très bien, vous connaissez très bien le principe de Luther de sola scriptura, c'est-à-dire de se référer uniquement à la Bible et pas à des choses qui ont été écrites par la suite, particulièrement à l'époque de Luther qui avait été édité par le pape pour des buts qui n'avaient plus grand-chose à voir avec la spiritualité. Luther voulait revenir à quelque chose d'essentiel. Et quelque part, le contrepoint tel que le conçoit un compositeur comme Praetorius, il n'est pas le seul à avoir fait ça, donc c'est une mouvance générale, finalement, ça fait un petit peu écho à ça. Parce que quand on a une pièce très luxuriante, très spectaculaire, avec des trompettes et des trombones, des violons, des voix qui se doublent les unes les autres, on peut les réduire à une forme essentielle. Un petit peu comme la foi de Luther qui devait toujours pouvoir être exprimée uniquement avec l'essentiel. Et ça amène aussi un aspect pratique et un aspect d'accessibilité, parce que ça veut dire que ces pièces monumentales pouvait aussi être diffusé et interprété dans les cadres de petites paroisses avec très très peu de moyens. Praetorius, lui, avait accès à énormément de moyens. La Marienkirche de Wolfenbüttel est une des premières cathédrale luthérienne à proprement parler. Donc, il était dans un lieu qui était très, très fortuné. Il avait accès à un nombre de musiciens absolument phénoménal. Ce qui m'amène au dernier point de cette partie-là, qui est que toutes les catégories sociales participaient. C'est-à-dire que vous aviez les enfants de chœur qui chantaient les voix de soprane. Évidemment, les femmes ne chantaient pas à l'église, totalement impensable, on imagine bien. Toutes les voix de soprane étaient chantées par des enfants, les enfants de chœur. Et ensuite, il y allait avoir des chanteurs professionnels qui allaient chanter les voix solistes. L'équivalent de nos chorales paroissiales qui allaient chanter les chœurs d'ensemble. Et au niveau des instruments, il y allait avoir autant des musiciens amateurs, comme les gens qui jouaient de la viole de gamme, par exemple, que des musiciens professionnels, les gens qui jouaient le violon, ou alors carrément des fonctionnaires municipaux, comme les trompettes que vous avez entendues tout à l'heure, qui étaient à peine considérés comme des musiciens, qui étaient plutôt des gens qui avaient une fonction utilitaire de sonner des appels pour telle ou telle fonction. On allait les faire entrer à l'église et on allait les faire prendre part à cette célébration. Et bien entendu, dans la liturgie luthérienne, l'assemblée allait chanter chorale. Très souvent, ces grandes pièces se terminent par un choral à quatre voix. Et là, toute l'assemblée pouvait chanter. L'accessibilité des pièces dont je vous ai parlé trouve aussi son écho aujourd'hui. Moi, je vous dis ça parce que ma mère, qui nous écoute en ce moment, à une chorale paroissiale, et j'ai eu plusieurs fois, et vous le confirmera si vous le demandez, j'ai eu plusieurs fois un coup de fil, ah oui, le pupitre d'alto est malade, les basses se sentent pas très bien, je sais pas qui sera la répétition, est-ce que tu aurais pas une pièce avec beaucoup de soprane, quelques ténors, quelque chose comme ça? Et je lui ai toujours dit, regarde chez Praetorius, parce que dans les musées sioniers, il y a des pièces pour absolument toutes les combinaisons possibles de voix. Et quand on ouvre le recueil, on voit vraiment que Praetorius a pensé à tous les contextes possibles où certaines voix allaient manquer, certaines voix allaient être un petit peu moins bonnes que des autres, et on ne pouvait pas simplement proposer du chœur mixte avec des niveaux de difficulté égaux, parce que sinon on se retrouvait avec des pièces qui n'étaient pas pratiques. Je vous montre ici une petite image du début d'une pièce. Donc en bas, vous avez la musique, c'est la partie de basse continue, autrement dit, c'est la partie que suivait l'organiste et qui était aussi en général, donc dans le cas des performances de Praetorius, l'organiste était Praetorius lui-même. Donc c'est un peu celui qui régissait la pièce. Donc vous avez d'abord le nom de la pièce. Ensuite, à 9 et 13, donc on a dit que c'est une pièce qui peut être jouée à 9 ou 13 musiciens. Et ensuite, vous avez ici une partie qui décrit le contenu de la pièce. Voces concertate 4, cori puerorum. Voces concertate, c'est les voix concertantes, autrement dit les solistes, qui sont chantées par des enfants. Corus capella, c'est l'équivalent de la chorale paroissiale. Capella felicia, c'est un chœur de violon ou de viol de gamme. Bassus generalis, c'est l'orgue. Vous voyez très bien que 9, ça correspond aux 4 voix solistes plus les 5 voix de la capella, et 13, ça correspond aux 4 voix instrumentales qui sont facultatives. On peut la jouer avec et on peut aussi la jouer sans. Et ensuite, ici, vous avez un texte qui explique. Donc, dans cette pièce, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut supprimer telle voix, il faut absolument garder telle voix. Ici, c'est marqué que dans le Polymnia 4, qui est le Polymnia Puericinium, celui pour les enfants, on trouve une autre version de cette pièce, avec juste les enfants. Et ensuite, on a tout le détail de quelles voix peuvent être doublées, etc. etc. Et ici, dans quelle partie on trouve les différentes voix. Parce que pour le Polymnia, il y a 15 parties différentes. Je vais voir si je peux revenir en arrière. Voilà. La table que vous avez ici, c'est un tableau très compliqué qui dit simplement dans quel livre on va trouver quelle partie de quelle pièce. C'est absolument effrayant. Moi, j'ai dû faire ça pour interpréter ces pièces. Je me suis complètement emmêlé les pinceaux et il y a 3 pages comme ça. Donc, ça vous dire à quel point Praetorius était très maniaque de l'organisation. Donc, vous avez ici un exemple de ce que l'organiste avaient devant les yeux quand ils devaient accompagner une pièce comme ça. Un autre aspect du luthérianisme dans cette pièce est évidemment la compréhension du texte, qui est très très importante et qui est vraiment au cœur du processus de composition. Jusqu'ici, les pièces sacrées dans le registre catholique étaient écrites selon la technique du cantus firmus, c'est-à-dire que la mélodie grégorienne était cachée quelque part dans une voie intermédiaire en valeur très très longue et était surtout ici pour l'idée, c'est-à-dire que c'était très conceptuel, c'était impossible de retrouver la mélodie, mais on savait qu'elle était là, qu'elle générait la pièce vraiment dans les entrailles, quoi. À l'inverse, le choral doit toujours être identifiable. Donc, ce que fait Praetorius, c'est qu'il le met toujours à la partie de Superius. Au lieu de le camoufler dans une voie intermédiaire, il le met dans la partie qui va sortir, qu'on va tout de suite entendre. Il est toujours identifiable, même s'il y a 25 voix en dessous, on le reconnaîtra toujours. Praetorius, dans le Polymnia, écrit beaucoup d'ornements sur les parties de chorale. Et ce qu'il fait, ah oui, parce qu'il y a l'image après, c'est ça. Ce qu'il fait, c'est que il écrit toujours la partie avec les ornements et au-dessus, il écrit la partie sans les ornements. Il écrit que c'est parce que si votre petit enfant de cœur est trop jeune et n'a pas encore appris à chanter les ornements, il peut chanter la version toute seule. Ça s'applique évidemment aussi à des chanteurs amateurs qui n'ont pas forcément la virtuosité de chanter tous ces ornements, ou simplement des gens qui veulent que le texte soit encore plus perceptible, que la mélodie soit encore plus perceptible. Mais les ornements eux-mêmes, le style d'ornement de Praetorius, est un style d'ornement qui n'interfère jamais avec la mélodie. Chez certains auteurs italiens, les ornements transforment une pièce en une autre pièce. Chez Praetorius, on va toujours reconnaître la mélodie de chorale. Et évidemment, le respect du texte pour Praetorius passe aussi par traduire tout en allemand. Par exemple, il y a une pièce qui s'appelle Missa ganz Deutsch, avec un T, ce qui veut dire littéralement la messe tout en allemand. Et c'est effectivement une messe, donc c'est une messe luthérienne qui n'a pas tout à fait la même structure qu'une messe catholique, mais c'est une messe où le Kyrie, le Gloria, etc., etc., sont chantés en allemand. Un autre petit exemple d'image, voilà, donc là c'est une autre pièce, cette fois c'est la partie de Superius, donc vous voyez, j'ai souligné en rouge, c'est ce que je vous avais dit au début de la présentation sur le Polymnia, c'est une pièce qui peut être jouée à 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 12. C'est-à-dire que là-dedans, vous avez un certain nombre de voix qui sont sacrifiables, au maximum vous en avez 12, et au minimum, vous avez quelque chose qui est simplement réduit à 2 voix. Et ensuite, vous avez ici ce que je viens de vous expliquer sur les ornements, la version simplex, sans les ornements, et la version diminutum, avec les ornements. C'est la même voix, mais vous voyez qu'ici, il y a plus de notes. Donc, c'est le moment de finir. Et je vais donc finir cette petite présentation avec une touche de musique en vous faisant écouter l'intégralité d'un verset de Vater unser im Himmelreich. J'ai choisi cette pièce parce que c'est un choral qui est très connu, donc je pense que certains d'entre vous ici n'auront pas de mal à reconnaître la mélodie. Ça met en pratique tout ce que je vous ai expliqué, tout ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que vous allez avoir un choral traité de manière polyphonique, traité avec la mélodie seule accompagnée des ornements, avec toujours beaucoup d'instruments en dessous, mais vous allez voir que vous allez toujours être capable de reconnaître la mélodie. J'ai aussi choisi cette pièce parce que le Vater unser im Himmelreich de Praetorius, c'est la plus grande pièce du Polymnia. C'est probablement la pièce la plus longue, la plus monumentale qui a été composée en Allemagne dans la musique sacrée à cette époque-là. L'interpréter en entier, ça dure à peu près une demi-heure. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui préfigure les cantates de Bach quelque part et qui est divisé en versets. Et chaque verset a un ensemble d'instruments et de chanteurs différents. Si vous voulez jouer ça, ça va vous demander des dizaines et des dizaines de musiciens parce que chacun va avoir son petit verset, quoi. Voilà, donc je vais vous jouer ça et après, on pourra passer aux questions. je vous précise que voilà, vous avez devant vous une image de Wolfenbüttel et je crois que c'est ici la Marienkirche où Prétorius était en poste et ici le Schloss Wolfenbüttel où il a aussi travaillé. Il ne me reste que à vous présenter la bibliographie si vous voulez en savoir un peu plus sur sur Prétorius et sur les sources que j'ai utilisées pour faire cette petite présentation. Et voilà, si vous désirez avoir mon contact. Donc, on peut passer aux questions, si vous le souhaitez. Tout le monde m'entend, c'est bon?
Oui.
Très bien. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les formuler oralement en levant la main avant ou alors les écrire dans la fenêtre de discussion.
Oui, Félix, je voulais indiquer à tout le monde que ton intervention pourra avoir des suites, certains aspects du sujet.
Oui.
En particulier, tu as évoqué les différentes conceptions sur l'usage de la musique dans les liturgies.
Oui.
Et pour les protestants, il y aura donc une conférence de Katharina Schechel la
oui.
prochaine, le 19 novembre, qui s'intitule « La musique entre origine divine et effet diabolique, exemple dans le protestantisme ». Parce que là, tu l'as dit tout à l'heure, les points de vue sont très différents entre Luther, Calvin, et je pense qu'elle ajoutera Zwingli, qui est encore plus extrémiste.
Encore plus extrémiste que Calvin, oui, exact.
Voilà. Et puis, on retrouvera le sujet avec Anne-Sophie Moncinet en janvier, et la musique en islam interdit ou levier spirituel. Bon, beaucoup d'entre nous connaissent les oppositions des talibans, par exemple, à tout ce qui est musique,
oui.
mais l'islam ne se résume pas fort heureusement à ça. Et là aussi, comme chez les chrétiens, tu as évoqué aussi les catholiques, il y a beaucoup de points de vue différents qui s'expriment, et ça sera intéressant d'en parler. Alors, oui. La conférence de Katharina Schechel, si elle a lieu, ça sera aussi en vidéoconférence, puisque
oui,
c'est encore en novembre. La suite, eh bien, on verra.
On croise les doigts.
Voilà.
Alors, des questions? Oui. Alors, il y a une question ici.
Oui. Alors,
oui.
Oui, bonjour Félix.
Bonjour.
Tu as parlé de chorale où les femmes ne chantaient pas, mais c'était les garçons, enfin les enfants. Hein.
Oui.
Mais est-ce que ça veut dire que dans l'assemblée, les femmes ne chantaient pas?
Dans l'assemblée, elles chantaient, c'est-à-dire que... Le choral lui-même, si l'assemblée était conviée à chanter, toute l'assemblée chantait. C'est-à-dire que les gens qui étaient entre guillemets sur scène, donc c'est pas sur scène parce que j'étais à l'église.
Mais... À l'église, oui. Alors il y a une raison pour laquelle, parce qu'on a gardé là une tradition qui
ben, n'était pas tellement disons que, on va dire que la conception des droits des femmes était un petit peu différente à cette époque-là, donc les femmes ne pouvaient pas chanter à l'église. C'était absolument impossible. Donc les voix aiguës étaient chantées par les enfants.
Oui, oui.
Les voix de soprano étaient chantées par les enfants, les voix d'alto étaient chantées par des hommes avec des voix aiguës, les voix de ténor et de basse étaient évidemment chantées par des hommes. Mais donc toutes les voix de soprano, et ça vaut pour une bonne partie de la musique sacrée à la période baroque, normalement, on devrait toujours faire chanter les voix de soprane par des enfants, des jeunes garçons.
Oui, enfin, je reste surpris parce que les femmes ont le droit de chanter quand même dans l'église, mais
oui.
pas au niveau du chœur.
Ben, pas au niveau surtout des solistes, parce que les enfants étaient ceux qui allaient avoir les rôles solistes.
J'ai bien compris, oui.
Comme j'ai montré la partition, c'était les voix concertantes qui étaient les voix des enfants. Et donc, je ne sais pas exactement de quoi était composée la capella, c'est-à-dire le chœur d'ensemble qui n'était pas l'assemblée.
Voilà.
J'imagine que si ça faisait partie de la performance elle-même, il y avait probablement que des hommes. Mais en tout cas, les voix qu'on qu'on a entendu dans les extraits chanter les chorales avec les ornements, etc., etc., était ça pour sûr chanté par des enfants. Praetorius a même prévu, mais ça fait partie des ouvrages qu'il n'a pas publié, une méthode entière pour apprendre à chanter aux enfants. Apprendre donc la culture vocale, et puis aussi comment diriger un chœur d'enfants, quel type de musique, etc., etc. Il en donne une petite description. Malheureusement, il ne l'a jamais fait, mais c'était son travail, lui, en tant que maître de chapelle. Il devait s'occuper de ça. Il avait un chœur d'enfants qu'il devait faire chanter, quoi.
Oui, je m'excuse encore, mais qu'est-ce que faisait l'assemblée, finalement? Elle chantait ou pas?
Eh ben, elle chantait quand le choral, probablement à la fin de la pièce, si le choral à quatre voix était donné à la fin de la pièce, on voit ça dans le Polymnia, où quelquefois à la fin, il y a marqué « Et maintenant, on chante le choral à quatre voix tel que on le trouve dans mon autre collection ». Et donc, moi, j'ai fait ça en concert une fois, à Bâle, où il y a une énorme communauté luthérienne qui connaît tous les chorales par cœur. Le chef nous dirigeait, on a terminé la pièce, et au moment de diriger le choral, il s'est tourné vers l'assemblée, il a dirigé pour l'assemblée, et tous les gens ont chanté la mélodie. C'est-à-dire que nous, on jouait aussi des voix intermédiaires, mais la mélodie du choral était chantée par les gens. Mais dans ce cas-là, c'est l'assemblée qui participe. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont dans un contexte de performance musicale, en fait. C'est vraiment la participation de l'assemblée, comme elle va participer à la Sainte Cène ou des choses comme ça après. Ça fait partie c'est un rôle, je dirais, semi-actif, quoi.
Merci.
D'autres questions? Oui, non, je
regarde. Praetorius était compositeur. Et finalement, qui utilisait sa musique? Est-ce que c'était des chefs de chœur en différents endroits? Quelle notoriété finalement avait la musique de Praetorius à son époque?
Alors ça, c'est je dois dire que il faudrait que je me renseigne un peu plus sur la diffusion des partitions de Praetorius. Elles ont été imprimées, donc si elles ont été imprimées, ça veut dire que elles avaient vocation à être vendues, surtout s'il y avait des explications à côté. Elles ont été aussi évidemment imprimées pour que Praetorius les utilise lui-même. Donc ça, il faudrait se renseigner sur combien d'exemplaires ont été imprimés, où est-ce qu'elles ont été vendues, qui les a achetées. Mais on imagine que, évidemment, c'était les paroisses qui allaient les acheter. Donc, c'était des Kapellmeister, des maîtres de chapelle d'autres églises. J'imagine que Praetorius était assez prisé. Il était connu parce qu'il a écrit cette méthode, Syntagma Musicum, et aussi parce que, comme je l'ai dit, il a travaillé dans plein de villes différentes. Donc, c'était un compositeur qui avait une certaine renommée. Je pense que ses pièces devaient être assez recherchées. Mais bizarrement, on en a assez peu dans d'autres collections. C'est-à-dire qu'en général, les compositeurs, à cette époque-là, on a les pièces qu'ils ont éditées eux-mêmes et les pièces qu'on trouve dans des autres collections, des types qui ont fait des manuscrits pour eux, des gens qui font des éditions anthologiques. Il y a beaucoup ça au début du XVIIe siècle, etc., etc. Dans le cas de Praetorius, l'essentiel de sa musique, c'est ce qu'il a édité lui-même. Il n'y a pas beaucoup de pièces qu'on a retrouvées, recopiées dans d'autres sources. Mais moi, j'imagine que sa musique a dû avoir un certain succès et qu'elle a dû, voyager pas mal dans les églises. Après, évidemment, des choses comme Terpsichore et Musarum, la musique de danse, ça, c'est des choses qui allaient pouvoir être achetées par une cour, par exemple, qui avait des musiciens et qui avait besoin de musique à faire jouer pour des événements, des célébrations, des événements politiques, des mariages nobles, des choses comme ça. Il fallait un groupe qui joue de la musique, il fallait qu'ils aient de la musique. Et si Praetorius avait un livre qu'on achetait, il y avait 300 pièces dedans, je pense que beaucoup de cours avaient intérêt à acheter ce livre parce qu'il y avait de la musique pour toute l'année, quoi. Alors là, j'ai une question par écrit. La musique modale avait-elle déjà disparu ou bien est-ce encore en débat? Alors, la musique modale n'avait pas disparu. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'époque où on a ce qu'on considère aujourd'hui comme le changement entre musique modale et musique tonale. Après, autant la querelle entre la seconda pratica et la prima pratica est quelque chose qui a existé et qui est identifiable avec des dates. Autant la notion de musique modale et de musique tonale est une invention de la musicologie plus tardive. Et donc, il y a une zone, je dirais, une zone grise qui dure longtemps, quoi, qui dure au moins tout le XVIIe siècle. C'est-à-dire que avant que les règles de la tonalité l'emportent sur toutes les règles de la modalité, il faudra attendre au moins le début du XVIIIe siècle, selon moi. On trouve des choses, des conflits entre les règles de la tonalité qui commencent à apparaître et les règles de la modalité qui sont encore là tout au long du XVIIe siècle. Donc, dans le cas de Praetorius, on est encore dans de la musique modale, parce que on est encore dans de la musique qui est composée selon le contrepoint traditionnel, et le contrepoint traditionnel est complètement modal, quoi. Donc ça, mais on est à la période à laquelle le langage de la musique tonale commence à apparaître.
Sinon, moi, j'ai éventuellement une question aussi.
Oui.
C'est l'idée de composer une musique modulaire pour qu'elle puisse être jouée dans toutes les conditions, ça paraît assez intelligent, surtout dans l'idée de la faire jouer dans des petites, dans des paroisses de différentes tailles. Est-ce que c'est une idée qui a été pérennisée après Praetorius, ou est-ce que ça a disparu, ou est-ce qu'il y a des compositeurs qui ont essayé de maintenir cette idée?
Alors, en fait, c'est plus quelque chose qui se pratiquait avant. Pas dans ce but-là, mais c'est tout ce principe de composer des voix facultatives. Au début du contrepoint, le contrepoint, c'est deux voix, et on rajoutait des voix par-dessus. Donc, on a, par exemple, au XIVe siècle, des pièces à deux voix dans lesquelles, dans une source, il va y avoir une troisième voix, et dans une autre source, il va y avoir une autre troisième voix. Ou alors d'autres fois, une pièce à quatre voix va avoir une cinquième voix sur laquelle le compositeur écrit six placettes, ce qui veut dire six besoins. Entre ces six besoins, ou alors, c'est facultatif, c'est pas obligatoire, quoi. Donc cette idée d'avoir une pièce dans laquelle on peut enlever des voix est une idée qui est plutôt ancienne, mais je l'ai pas vraiment vue chez d'autres compositeurs. Ça arrive de temps en temps, mais chez Praetorius, c'est vraiment systématique que les pièces sont indiquées, c'est vraiment indiqué que c'est voilà à 2, 3, 5, 6, 8, 12, 14, etc., etc. Après, moi, je pense qu'il y a aussi l'aspect très, très méthodique de Praetorius, et on peut supposer que c'est quelque chose qui pouvait être pratiqué sur d'autres pièces, d'autres compositeurs, ou si le Kapellmeister savait composer, les Kapellmeister savaient toujours composer, ils connaissaient le contrepoint, ils voyaient la pièce et ils voyaient tout de suite ça c'est une pièce encore assez conservatrice, on va pouvoir enlever cette voix et puis la réduire. Et je pense que chez Praetorius, ce qui est unique, c'est pas tellement le procédé, c'est surtout le fait qu'il l'écrive et qu'il écrive toujours toutes les possibilités vraiment noir sur blanc, quoi. Il laisse très peu de place à l'initiative finalement, parce que toutes les options sont déjà précisées.
Pour à la polychoralité, si vous avez écouté des œuvres grandioses, hein, est-ce que Praetorius a eu l'occasion de faire jouer sa musique dans des églises où elle pouvait être mise en valeur, un petit peu comme à Saint-Marc? Est-ce que tu connais par exemple l'église dans laquelle il était Kapellmeister?
Alors la Marienkirche de Wolfenbüttel, je sais pas exactement comment c'est à l'intérieur, mais s'il a composé de la musique comme ça, on imagine que c'était probablement possible. En tout cas, c'était une église qui était récente, hein, qui a été construite à cette époque-là. Comme c'était la mode, on peut imaginer qu'ils ont construit l'église de sorte qu'il y avait cette possibilité. Au moins il y avait peut-être la tribune en arrière, donc on pouvait mettre au moins des gens derrière et des gens devant, quoi. Après, dans le Polymnia, il y a jusqu'à six chœurs, et dans le troisième volume du Polymnia qu'il n'a pas édité, ça fait partie des pièces qu'il n'a pas eu le temps, des volumes qu'il n'a pas eu le temps d'écrire, il y a le détail des pièces avec le nombre de musiciens. Et la pièce la plus monumentale a 35 voix réparties en 9 chœurs. Donc on imagine qu'il avait probablement la possibilité de mettre les gens à différents endroits. Je ne sais pas s'il y avait une double tribune à la Marienkirche. Après, il y avait des doubles tribunes quand même dans beaucoup d'églises en Allemagne. On pense souvent que c'est que à Saint-Marc qu'il y en avait, mais en fait c'était quelque chose qui était assez courant à cette époque-là. C'est pour ça que la mode de la polychoralité s'est transmise très très vite en Allemagne du Nord, parce que il y avait toujours la possibilité. À Salzbourg, par exemple, il y a quatre tribunes avec un orgue sur chaque tribune, qui permet d'avoir un orgue de continuo pour chaque groupe. Et c'est pour ça que Bieber, par exemple, a composé beaucoup de messes à cinq chœurs, pour avoir un chœur en bas et un chœur sur chaque tribune qui correspond aux quatre piliers de l'église. Et là, évidemment, on est dans le sud, quoi, on n'est pas dans le nord. Mais je pense que si Prétorius a composé des pièces comme ça, il avait probablement l'espace pour pouvoir les faire, j'imagine.
Une dernière question.
Oui.
Sur l'ornementation, on a bien entendu que chaque chœur instrumental en particulier joue une ornementation qui est très riche.
Oui.
Et très, très développée, très virtuose.
Oui.
Est-ce qu'on pense qu'avec les instruments, bon, ce qu'on a écouté, c'est avec des instruments anciens, bien sûr, mais
oui.
Je pense qu'ils pouvaient jouer ce qu'on a entendu à cette époque-là. En particulier dans le premier extrait que tu nous as fait écouter.
Oui. Comment ça, est-ce qu'ils pouvaient, qu'est-ce que je veux dire?
Je sais pas, tu parlais des trompettes, par exemple.
Oui.
Qui n'étaient pas des instrumentistes apparemment très, très performants. Je sais pas si j'ai bien compris ton explication.
Non, c'est-à-dire que les trompettes, c'était des instruments d'appel. Donc, ils n'étaient pas considérés comme des musiciens à part entière parce que leur travail était surtout d'envoyer des signaux. Mais après, comme ils jouaient d'un instrument, qui était quand même un instrument, on les conviait, ça avait du sens. Par exemple, évidemment, dans Inus Jubilo, on imagine que c'est les trompettes des anges. Mmh. Donc là, ça a du sens de mettre des trompettes. Mais pour les instruments qui étaient les autres instruments, par exemple le premier extrait avec les cornets à bouquin qui faisait des
illusions. C'est les cornets qu'on entend.
Là, c'était les cornets. Ouais. Le Warhaus, c'est une des pièces avec deux violons et deux cornets qui ont des parties pleines de diminutions. Et là, on voit vraiment que si Prétorius écrit ça, ça veut dire qu'il avait les musiciens. On sait quels musiciens il avait aussi. On sait que dans ses violonistes, il y avait des gens très très virtuoses. Donc, il y a quelques pièces dans la Polyhymnia, il y en a 4 ou 5 où il y a vraiment des diminutions très très virtuoses pour les instruments, dont celle-là que j'ai fait écouter. Et là, on imagine qu'il avait à disposition des musiciens. Après, évidemment, dans la hiérarchie des voix facultatives, ces voix-là sont les premières qu'on peut sacrifier.
Oui.
Toujours sacrifier d'abord les voix instrumentales, après les voix vocales d'ensemble et les voix vocales solistes à la fin. C'est les plus importantes. Mais donc, ce Warhaus, aujourd'hui, nous, quand on le joue toujours avec tous les instruments. Mais il faut s'imaginer qu'à l'époque, c'est une pièce qui a probablement été jouée des milliers de fois sans les instruments, dans des paroisses qui n'avaient pas les instruments ou qui n'avaient pas des instruments assez performants pour les jouer. Parce que si on enlève les instruments, la pièce marche très, très bien. C'est vraiment c'est le glaçage sur le gâteau, quoi. C'est un truc, c'est vraiment le plus. Mais sans ces instruments virtuoses, la pièce marche très bien. Et le principe d'écrire les voix avec les ornements, sans les ornements, il le fait uniquement pour les voix. Il le fait pas pour les instruments. Donc ça veut dire que les instruments, s'il y avait pas d'instruments assez virtuoses, ils jouaient pas la partie. Alors que les voix, s'il y avait pas de voix assez virtuoses, il fallait quand même chanter. Il précise d'ailleurs que les voix de soprane qui ont la mélodie du choral avec des diminutions, si le chanteur, le jeune garçon, n'est pas assez performant pour chanter avec les diminutions, il peut chanter sans. Si on veut avoir les diminutions, on peut doubler la voix avec les diminutions en même temps par un instrument, mais la voix doit toujours être chantée. On ne peut pas simplement la jouer à l'instrument. Elle doit toujours être chantée avec le texte. Parce que pour lui, c'est très important que le texte soit perceptible et que si on a une mélodie chorale, le plus important dans la musique chorale, c'est vraiment la compréhension du texte.
Ouais. Voilà. Ça suppose que les instrumentistes, en fait, doivent être d'excellents techniciens de l'instrument et en même temps connaître les règles de l'ornementation.
Ah ben bien sûr.
C'est ça dans la formation.
Les cornets et les violonistes, Prétorius le dit lui-même en citant Agazzari et Viadana, qui sont des théoriciens italiens, qui disent que les musiciens, les instrumentistes ont tendance à mettre trop de diminutions. Ruine complètement la musique et il précise même cela s'adresse particulièrement aux cornets et aux violons et Prétorius commente en disant à part s'ils ont bon goût. Donc on voit qu'ils avaient plutôt tendance à en faire trop qu'à en faire pas assez, quoi.
Merci.
Voilà. Alors, on a Michel Cazot qui a une question.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous m'entendez?
Oui, très bien.
Bon, merci pour votre conférence, une grande érudition, je trouve. Alors, je connaissais un petit peu Pretorius pour avoir entendu quelques-unes de ses pièces, ouais. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, c'était tout à fait passionnant. Et j'ai une question.
Oui.
Disons deux questions. Une qui est complémentaire à la première, à savoir, est-ce que l'on peut faire un rapprochement, parce que vous avez parlé de, bon, j'ai vu qu'il y avait des partitions avec le chiffrage,
oui.
Plus des voix qui pouvaient se supprimer, d'autres qui pouvaient oui. s'ajouter, etc. Est-ce que l'on n'est pas proche, finalement, du ce que l'on appelle le Big Bang, en jazz, qui utilise une grille, avec un certain nombre de formules, de règles, qu'on peut avoir, chaque instrument a un rôle particulier à faire, et on peut enlever un instrument, en rajouter un, etc., en fonction de la formation qu'on a. Et est-ce que, donc, Pretorius n'était pas un Européen moderne déjà à son époque ? Est-ce qu'il était polyglotte ?
Je pense que le lien est vraiment à chercher dans le côté pratique. Parce que dans le Big Band, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que un certain Big Band va avoir plus de trombone, un autre va avoir plus de trompette, un autre ne va pas avoir de saxophone, ou un autre va avoir un moment où tous les trombones sont malades, des choses comme ça, et ils doivent quand même toujours jouer la même pièce. Donc effectivement, on a dans les deux cas l'architecture de la pièce qui est vraiment modulaire, où des instruments peuvent remplacer les autres, où certaines voix peuvent être facultatives. Et évidemment, on a vu une partie de basse continue avec le chiffrage. Donc, si on joue la pièce avec un orgue, eh ben, dans tous les cas, l'orgue va jouer certaines des voix, un petit peu comme le big band, où en général, il y aura quand même toujours un piano qui va pouvoir toujours faire une réduction harmonique, et où finalement, c'est toujours des histoires de doublure, quoi. Et que si un instrument n'est pas là, le piano peut prendre le rôle, etc., etc. Alors. Voilà, pour répondre, pour mettre ça en regard avec la question de Gabriel, à l'époque de Pretorius, c'est pas forcément un procédé qui est très novateur, parce que effectivement, si on regarde l'histoire de la musique, on va pas vraiment dans cette direction. Dans l'histoire de la musique savante occidentale, on va plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire on va plutôt dans des pièces qui sont écrites de manière de plus en plus précise, où les instruments sont de plus en plus indispensables. On peut pas prendre des cantates de Bach aujourd'hui et s'amuser à enlever une voix au milieu, parce que sinon il y a toute l'architecture qui s'écroule, quoi, parce que toutes les voix sont vraiment composées pour être interdépendantes. Et ça, cet esprit de quelque chose de modulaire et d'adaptable, est à la rigueur ça appartient presque plus à l'aspect conservateur de Pretorius, en fait, pour moi en tout cas, de ce que je vois, comment il se place, comment les compositeurs avant lui se placent. Par exemple, chez Schütz, qui est beaucoup plus dans l'esthétique baroque, on ne peut pas faire ça. Parce que le contrepoint est écrit de telle sorte que chaque voix est vraiment indispensable. Ou chaque instrument est aussi indispensable. Les pièces de Schütz avec des instruments, si on enlève les instruments, il manque vraiment quelque chose. Ils ne sont pas là juste pour accompagner. Alors que chez Pretorius, c'est vraiment les voix instrumentales qui sont comme le Big Band. Dans la dernière pièce que j'ai fait écouter, on entend que tout ce qu'ils font, c'est faire une texture. C'est voilà, c'est vraiment faire comme s'ils jouaient la réalisation de la basse continue. Et donc, comme on aurait une section cuivre qui va faire la même chose que ce qu'un piano pourrait faire si la section cuivre n'était pas là, quoi. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on a dans les deux cas, parce que dans les deux cas, on a des gens qui avaient affaire à la musique comme quelque chose de pratique et pas comme une espèce de vision un petit peu abstraite, artistique, comme ça. J'étais des gens qui doivent jouer la musique. Il faut que la musique soit jouée dans tous les contextes possibles, donc il faut faire en sorte qu'elle puisse l'être, quoi. C'est vraiment un aspect pratique pour moi. Voilà, si ça répond à la question, j'espère.
Merci bien.
Peut-être pour rebondir, est-ce que tu dirais qu'il y a un lien conscient entre la modularité et la musique entre guillemets populaire, pour l'opposer à la musique savante?
Chez Pretorius, je pense pas. Après, bon, le problème de la musique populaire, c'est qu'à cette époque-là, en fait, on sait très très peu. C'est toujours le problème de la réception. Toutes les informations qu'on a sur la musique populaire nous sont transmises par des gens qui jugent ça de haut. Donc, on ne sait pas trop dans quelle mesure on peut faire confiance aux sources qui nous disent que la musique populaire, c'était un peu comme ci, comme ça. Ils s'en fichaient, ils jouaient pas très bien. On ne sait pas trop. Et je pense que pour Pretorius, c'est vraiment un aspect pratique. C'est un aspect qui est lié au contrepoint traditionnel. Je ne pense pas qu'il y ait un aspect lié à la musique populaire. C'est peut-être quelque chose qu'on va trouver dans Terpsichore et Musarum, où effectivement, là, on va avoir des harmonisations de branle, des choses comme ça, des harmonisations de danse qui sont dans des autres sources où elles sont décrites comme étant d'origine populaire, avec toujours un gros point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire une danse d'origine populaire? Quand un abbé écrit cette danse est d'origine populaire, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je pense que dans le polyhymnia, il n'y a pas vraiment de choses d'origine populaire. Peut-être dans ces musiques de danse, on peut chercher ça. Musiques de danse qui ont la même chose. C'est aussi des choses où on peut enlever certaines voix et réduire une pièce à 4 ou 5 à uniquement 2 ou 3 voix. Quoi. C'est possible dans à peu près toute l'œuvre de Pretorius de faire ça.
J'aurais une question. Finalement, on redécouvre Buxtehude aujourd'hui. Mais finalement, est-ce que Buxtehude n'a pas été supplanté par Bach pendant de longues années et un peu la musique de Buxtehude a disparu?
Buxtehude ou Pretorius? Buxtehude ou Pretorius? Tu as dit Buxtehude. Tu voulais dire Pretorius ou Buxtehude?
Pretorius, oui. Est-ce que la musique de Pretorius n'a pas finalement été masquée par l'époque de Bach finalement?
Alors, pour moi, non, parce qu'on est quand même dans une époque différente. Je pense plutôt que la musique de Pretorius a été supplantée par celle de Schütz, qui a été considérée surtout par les musicologues dans les années 50-60 comme le premier compositeur baroque luthérien, c'est-à-dire qu'on a considéré que tout ce qui était avant, c'était, ça valait pas vraiment le coup. Il faut dire qu'à cette époque-là, on connaissait très mal la musique de Pretorius, on la comprenait pas beaucoup, parce que c'est quand même, moi, là, la conférence que j'ai faite aujourd'hui, en 2020, je peux être content qu'il y ait déjà des... Je peux me baser sur le travail que des gens ont déjà fait, qui se sont tapés les 1500 pages de Syntagma Musicum écrits en fracture, en allemand 17e, pour comprendre tout ce que Pretorius veut dire avec ses pièces. Parce que, justement, comme c'est des pièces modulaires, adaptable avec des tas de choses un petit peu compliquées en termes d'organisation de la musique. Toutes ces grandes pièces monumentales sont des choses qui ont été redécouvertes dans les années 70. Et avant, Pretorius, on le connaissait pour ses harmonisations de chorale et pour la musique de danse. Donc, on considérait que c'était un compositeur un petit peu mineur et que le premier vrai grand compositeur, c'était Schütz. Et pour moi, Schütz a fait plus d'ombre à Pretorius que Bach. Après, Bach, d'un certain point de vue, a fait de l'ombre à tous les compositeurs luthériens avant et après lui, surtout avant lui. Mais pour moi, Pretorius vient d'une époque qui est suffisamment reculée pour que Bach ne lui a pas fait particulièrement d'ombre. Je pense que Schütz lui a plutôt fait de l'ombre. Après, Bach a fait un peu de l'ombre à Schütz dans la vision moderne qui, un peu, des fois, n'accepte que Bach. Mais pour Pretorius, ce qui lui a fait de l'ombre, c'est aussi la complexité de l'approche. C'est-à-dire que jouer une pièce comme ça de Pretorius, ça demande de lire beaucoup, de comprendre beaucoup, de savoir beaucoup de choses sur les instruments, sur les possibilités vocales, sur les dispositions dans les églises, etc. etc. Et ça fait que c'est des pièces qui ont été jouées que par des gens dans le milieu de la musique ancienne, qui avait vraiment pas peur de mettre les mains dans le cambouis, et c'est quelque chose qui est apparu finalement assez tard, quoi. Et c'est pour ça que Pretorius est redécouvert depuis, bon, une trentaine d'années. C'est pas quelque chose qui se fait depuis 2 ans. Mais c'est vrai que ça commence à être redécouvert, ça commence à être réinterprété, aussi parce que bon, faire un concert avec des pièces du polyhymnia, ça demande 40, 50, parfois 50 musiciens. C'est pas forcément facile de monter un projet comme ça avec un compositeur qui n'est pas aussi connu que, par exemple, Monteverdi. Faire les vers de Monteverdi, ça marche toujours. Il y aura des gens qui viendront au concert. Si je veux faire un concert en disant que je vais faire les Polymnias de Praetorius, je sais pas si je trouverai quelqu'un qui me financera un projet sur 50 musiciens. Donc ça fait que tout ça fait que cette musique n'est pas très souvent interprétée. Mais pour moi, c'est pas forcément la faute de Bach. Ça peut être aussi la faute de Praetorius lui-même, qui était un homme très complexe et qui a laissé une musique qu'il a laissé d'une manière assez complexe, je dirais. Alors, d'autres questions en attendant qu'il écrive?
J'avais vu que Michel avait levé la main un instant, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité.
Est-ce que c'est toujours d'actualité, Michel?
Oui, ça peut toujours, c'est une question. C'est peut-être une question un petit peu de spécialiste. Parce que bon, on sait bien que le choral en général est une pièce qui est assez courte, et sur le plan métrique, on est souvent dans des carrures de 8-16 mesures. Alors, est-ce que Praetorius, lui, avait ce même type au niveau formel dans ses pièces?
Alors, il a fait les harmonisations, tous les chorales qu'il a utilisées, il en a fait des harmonisations à quatre voix très simples, qui vont respecter les structures du choral original. Et après, quand il va composer une grande pièce sur un choral, comme on l'a vu dans le dernier extrait que j'ai joué, il va évidemment découper ça, faire certains passages deux fois plus rapides, deux fois plus longs, les doubler, les passer des choses binaires qui va passer en ternaire, inversement. Donc, il joue un petit peu avec la structure, comme ce que feront tous les compositeurs luthériens après lui, qui vont composer sur les mélodies de chorale. Mais on a aussi, là j'en ai pas parlé parce que j'avais pas le temps, mais on a aussi dans Musée Sionnier des centaines et des centaines d'harmonisations à quatre voix, vraiment homophoniques, dont certaines qu'on trouve dans les livres de cantiques à l'église aujourd'hui. Il y en a qui sont simplement les harmonisations de Praetorius recopiées telles quelles, parce que c'est court, c'est facile à chanter, c'est dans des ambitus qui bougent pas trop, c'est vraiment fait pour pouvoir être chanté par tout le monde, quoi. Donc on aura les deux. Et très souvent, comme ce que j'ai dit en répondant je sais plus à qui avant, dans certaines pièces Polymnias, c'est marqué à la fin, après avoir fait la grande pièce d'une demi-heure qui découpe le choral en petits morceaux et qui en fait des choses très complexes, c'est marqué maintenant on chante le choral dans sa version à quatre voix. Tout le monde le chante, donc ça fait une pièce très monumentale parce que tout le monde, toutes les voix sont doublées, mais c'est ce choral à quatre voix avec sa structure très simple. Donc il y a les deux, en fait. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Oui, oui,
à la fois
faire En fait, il joue beaucoup avec la variation d'une certaine manière.
Il joue d'une certaine manière avec la variation, c'est-à-dire que quand il va faire ce que faisaient aussi les organistes à cette époque-là, qui est un autre sujet que j'ai absolument pas abordé, qui est les pièces sur chorale par les organistes. Souvent, une fantaisie sur chorale est divisée en plusieurs parties qui correspondent à chaque fois à une strophe du chorale. Et dans les grandes pièces de Praetorius, c'est la même chose. Là, ce que j'ai écouté en dernier, c'était la troisième strophe de Vaterunser, qui a duré 4 minutes. Et la pièce entière dure une demi-heure, et c'est juste les différentes strophes qui sont à chaque fois traitées différemment. Donc, quelquefois, c'est très proche, très très droit, très très carré, et quelquefois, c'est beaucoup plus, la structure est beaucoup plus modifiée, quoi. Ça dépend ce qu'il avait envie de faire à ce moment-là.
Il illustre le texte, en fait. C'est un travail très... C'est presque la musique à programme, je dirais.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est chez Praetorius, pas vraiment. Chez Schütz, là, ça va vraiment être de la musique à programme, parce qu'on va avoir toutes ces pièces qui étaient très populaires à partir de la génération de Schütz sur les louanges, où il y avait tout le détail de louer Dieu avec... les trombones, avec les viols, avec tous les instruments, et à chaque fois il y avait l'instrument qui faisait une petite intervention. Ou alors, dans le cas de Schütz, deux violons qui allaient imiter les instruments. Parce que la musique programmatique va être quelque chose qui va beaucoup être à la mode au XVIIe siècle, donc quand on est vraiment dans une esthétique du début de la période baroque, mais une esthétique vraiment baroque, et là avec des compositeurs comme Schütz, et puis Parelbel, Buxtehude, etc., Là, on va vraiment avoir de la musique très, très programmatique. Chez Praetorius, la musique, la chose la plus programmatique est probablement l'utilisation des trompettes dans Into Dulce Jubilo. Là, on a vraiment une espèce de représentation des trompettes des anges qui sont. Pas d'autres questions? Très bien. Eh ben, dans ce cas, merci pour les messages de remerciement. Ben, on peut s'arrêter là, du coup. Et bonne soirée à tous. C'est un peu bizarre de dire bonne soirée sans voir les gens, mais voilà. Merci d'être venu, merci d'avoir écouté la conférence et d'avoir réagi. on va pouvoir, merci beaucoup. On va pouvoir clore la session. Donc, je voulais aussi remercier donc déjà toute l'équipe de Racines et Chemins pour avoir organisé la conférence et particulièrement Gabriel Michaud qui a hébergé la session avec son compte Zoom qui nous a permis de largement dépasser les 40 minutes autorisées avec un compte gratuit et qui a aussi apporté le soutien technique. Donc merci à lui et voilà merci à Marie-Christine qui m'a organisé cette conférence, qui m'a contacté pour que je puisse la mettre en place et qui s'est aussi démenée pour que même dans la situation actuelle, on puisse quand même maintenir l'événement sous cette forme. Donc, merci beaucoup et bonne soirée à tous.